C'est d'actu, en direct depuis la 77e édition du Festival de Cannes, une émission présentée par Robin Hulin.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro. C'est toujours une édition spéciale depuis la Croisette et la 77e édition du Festival de Cannes que je vous propose. Et c'est également le dernier numéro de cette semaine spéciale. En ce dernier jour d'édition spéciale, je dois plier bagages et vous retrouver au Mans. Alors ce sera un numéro plus court aujourd'hui, mais avec plusieurs sujets et une surprise avec l'intervention d'un confrère, vous verrez. Au programme, donc aujourd'hui, nous parlerons d'Europe Creative Media. C'est un programme qui soutient et développe l'industrie de l'audiovisuel en Europe. Margot Lacoste sera notre invitée pour en parler. Et puis, que pensent les Cannois du Festival de Cannes? Alors que cette semaine, on vous a parlé du tapis rouge, des célébrités et des films projetés, quel est le regard que les locaux portent sur cet événement? Nous sommes allés les rencontrer. Et enfin, si Cannes rayonne par son festival, c'est une ville qui abrite aussi beaucoup d'autres lieux et activités à faire. Alors on vous a sélectionné trois endroits à découvrir si vous venez dans la cité cannoise. Voilà pour les sujets aujourd'hui. Pour démarrer cette émission, il est l'heure de se tourner vers notre invitée du jour, Margot Lacoste, représentante d'Europe Creative Media, que nous avons rencontrée ce dimanche. Margot Lacoste, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable média au sein du bureau Europe Creative France. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'est Europe Creative France, puisqu'il y a aussi Europe Creative France Média, il y a l'aspect média. On va détailler un petit peu tout ça, quelles sont vos missions, puisque cette semaine, on a pu faire un sujet avec l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail, pour nous et les auditeurs, vos missions premières?
Oui, bien sûr. Donc, le programme Europe Creative est un programme de la Commission européenne. Nous, en France, on a pour mission d'accompagner le secteur audiovisuel, particulièrement français, mais aussi européen, sur une bonne mobilisation des objectifs de ce programme. Europe Creative est composée de trois grands volets, dont le volet média qui est dédié à l'audiovisuel européen. L'objectif de ce programme, c'est d'accompagner le développement et la compétitivité du secteur audiovisuel européen, mais aussi d'assurer une certaine diversité culturelle. Et pour faire simple, le programme s'organise autour de trois grands types d'actions. Tout ce qui est lié au contenu, donc c'est-à-dire financer les œuvres, notamment au stade de leur, au stade du développement, pour la production indépendante européenne. Puis le deuxième champ d'action, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle les actions business, donc organiser les bonnes conditions de marché en Europe. Bah, bien sûr, le marché du film de Cannes est bénéficiaire de médias à ce titre pour développer ses activités business. Également, le dernier volet est le volet audience, donc pour financer tout type d'actions qui peuvent permettre aux œuvres audiovisuelles européennes de toucher leur public, que ce soit dans la salle de cinéma, à travers des actions d'éducation à l'image ou par exemple dans les festivals ou via des plateformes VOD.
Est-ce que c'est une façon d'essayer de trouver des solutions, des plans d'action face à la domination par exemple du cinéma américain ou pas seulement du cinéma américain qui prennent beaucoup de place sur Terre ?
L'idée, c'est vraiment d'assurer les bonnes conditions d'une production européenne, notamment indépendante, et d'avoir une diversité d'œuvres européennes qui circulent déjà en Europe. Parce que c'est très important d'avoir du cinéma européen qui circule, pas uniquement le cinéma français en France, etc., mais d'avoir tout type de cinéma, notamment non national, qui circule déjà en Europe. Et aussi, bien sûr, le deuxième objectif, de pouvoir le faire circuler à l'international. Donc l'idée, oui, c'est vraiment de permettre les bonnes conditions du cinéma et de l'audiovisuel européen. Et bien sûr, ça passe beaucoup par des questions de circulation et donc de visibilité, et notamment par rapport à la domination américaine.
Alors vous avez parlé des différents cycles, des différents secteurs de vos missions. On sait que c'est donc un projet qui est intimement lié à l'Union européenne. Qui compose concrètement Creative Europe? Qui sont les représentants?
Donc le programme Europe Creative est un programme de la Commission européenne. Comme tout programme européen, en fait, il a une gouvernance, on va dire, multiple, qui est assurée par, à travers le Conseil européen. Donc, c'est-à-dire que pour représenter l'organe de gouvernance de ce programme, il est géré les propositions politiques sont effectuées par la Commission européenne en lien avec leur agenda politique pour le développement de l'audiovisuel européen. mais également l'ensemble des États membres participent à cette gouvernance. Donc, par exemple, pour la France, le CNC est à la table pour contribuer à l'évolution du programme. Puis, également, le Parlement européen a également la possibilité de contribuer aux évolutions du programme, notamment en remettant des rapports sur l'évaluation à mi-parcours du programme Europe Créative et proposer peut-être aussi certaines pistes de développement ou de points d'attention, par exemple.
Donc si ce projet est lié à l'Union européenne, la Commission, est-ce qu'il y a aussi un projet, un programme qui est voté, désigné pour 5 ans, par exemple, précisément, quelque chose comme ça ?
Oui, donc le cadre du programme Europe Créative, il a été adopté en fait en 2021 pour une période, effectivement, le règlement court de 2021 à 2027. Donc, c'est-à-dire que le programme, sous sa forme actuelle, est assuré, et son budget également assuré jusqu'en 2027. Là, on arrive déjà à mi-parcours du programme. Donc, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase d'évaluation du programme, ses succès, ses possibilités d'évolution. Et en fait, on commence déjà à chapeauter l'après, donc c'est-à-dire 2028-2035.
Il y a des thématiques, des problématiques qui sont nouvelles aujourd'hui, qui ont évolué. Vous parliez 2021-2027. Est-ce que par rapport à il y a 15 ans, on a des sujets aujourd'hui, notamment avec l'explosion d'Internet et du streaming, qui ont évolué dans vos problématiques ?
Oui, c'est un programme qui est en constante évolution, déjà par rapport aux besoins du secteur, mais également tout simplement par rapport à l'évolution de nos sociétés. Donc là, ce qu'on a pu noter, notamment avec la mise en œuvre du nouveau programme, c'est la part de plus en plus importante du numérique, donc comment on utilise à bon escient le numérique comme un outil pour permettre de développer le secteur. Donc là, aujourd'hui, les sujets chauds, entre guillemets, c'est comment intégrer les questions d'innovation, donc avec les questions d'IA pour les utiliser à bon escient pour le secteur audiovisuel européen. Également, intégrer un scope plus large d'œuvres audiovisuelles. Aujourd'hui, dans les œuvres qui sont éligibles et le secteur qui est éligible sous média, on a également le jeu vidéo qui est éligible, les œuvres immersives, donc le scope ne cesse d'évoluer. Et enfin, des priorités plus transversales qui sont liées notamment à l'éco-responsabilité. Donc, comme tout programme européen, il y a un objectif aussi d'assurer cette transition écologique. Également, l'autre priorité transversale pose sur des questions de diversité et d'inclusion, donc d'essayer d'avoir un secteur qui est plus représentatif et plus inclusif pour l'Europe.
Alors, sur le sujet de l'environnement et de l'éco-responsabilité, par quel type d'action ça passe quand on rattache ça au cinéma ?
Au niveau européen, l'idée en fait est de proposer le développement d'outils ou d'initiatives qui vont être complémentaires de ce qui se passe au niveau national. Donc là, l'idée c'est d'avoir de manière tout à fait transversale, en fait, chaque projet qui présente une demande de financement à média doit avoir une stratégie éco-responsable. Donc quand on est un producteur qui développe un projet, c'est lié à des questions d'éco-production, etc. C'est pas obligatoire, mais on incite fortement à ce qu'ils développent ces pratiques-là. Et puis d'autres projets, au contraire, ça va être le cœur de leur activité. Donc par exemple, des réseaux de formation pour les professionnels européens qui vont travailler sur ces questions de verdissement, ou alors d'outils numériques, j'en parlais plus tôt également, à travers la possibilité de développer une meilleure pratique autour, meilleure gestion aussi autour des besoins en termes de calculation carbone ou des choses comme ça. Donc en fait, on a vraiment différents scopes qui sont couverts dans ce cadre-là.
Et alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez pendant cette quinzaine du Festival de Cannes ? Est-ce qu'il y a aussi des événements spéciaux, des temps de rencontre par exemple ?
Oui, on a pu proposer donc ici sur le stand, alors déjà sur le stand de Média qui, où on est hébergé sur le village international du marché du film, on héberge plus de 300 participants européens. Donc l'idée, c'est aussi d'être d'être une première porte d'accès pour l'audiovisuel européen. En étant accrédité sur le stand, ils ont la possibilité de faire leur rendez-vous, etc., de rencontrer des temps de faire des temps de networking. Par ailleurs, cette année, on a eu sur le stand la présentation de différents projets qu'on puisse être soutenu par Europe Créative. Par exemple, ce matin, trois nouveaux projets qui ont été soutenus dans le cadre de Writing European, qui est des initiatives qui permettent en fait de développer des nouveaux types de modes d'écriture, particulièrement pour la série télé. Et demain, nous présenterons un showcase de plusieurs projets soutenus dans le cadre de Innovative Tools and Business Models, qui sont ces fameux projets plutôt liés à la question d'innovation et technologique, qui servent beaucoup pour la partie business de notre secteur, que ce soit en termes d'utilisation de données, d'utilisation de l'IA par rapport à des questions de gestion de droits ou de visibilité des œuvres, par exemple, sur les plateformes.
On en a parlé rapidement tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous positionnez et travaillez dans la lutte contre le streaming illégal qui a vraiment explosé depuis 15 ans ?
Pour cela, en fait, il y a des critères qui sont très clairs dans les règlements du programme Europe Créative, donc, c'est-à-dire d'assurer des œuvres audiovisuelles qui puissent prouver en fait, leur exploitation sur l'ensemble de les chaînes de valeur. Donc c'est bien sûr d'assurer l'accessibilité des œuvres en fait, de manière légale, mais surtout accessible et visible pour tout citoyen européen. Et là-dessus, on travaille sur des possibilités de financement qui vont... de la salle aux plateformes VOD par exemple. Donc on va dire que on passe par la réglementation sur des critères d'éligibilité sur les projets pour faire attention à ces mesures-là.
Et alors, est-ce que la couleur politique de la Commission européenne peut vous influencer, peut avoir un impact sur vos missions et sur les projets de 5 ans à chaque fois ?
Je ne pourrais pas répondre en ce sens-là, puisque là, ici, ce qu'on a pu voir sur l'évolution du programme, il était, bah, par exemple, la question de l'éco-responsabilité est bien sûr liée au Green Deal européen, c'est-à-dire que c'était une des milestones de la commission von der Leyen, et ça a eu vocation, en fait, à abonder et à pénétrer dans tout type de dispositifs. Donc c'est peut-être dans ces grandes orientations politiques qu'on retrouve aussi, à notre niveau, l'évolution du programme, mais je les verrai peut-être de manière plus globale que spécifiquement sur notre secteur.
Enfin, est-ce que, par exemple, Creative Europe regarde les élections européennes qui approchent avec attention ?
On a un programme qui est neutre par nature, plutôt en tant que citoyen, citoyenne, nous on va le regarder avec attention parce qu'on peut se douter que l'évolution de la couleur politique du Parlement européen aura peut-être un impact sur les propositions que feront le Parlement comme une des instances de la gouvernance du programme sur l'évolution du programme Europe Créative.
Margot Lacoste, vous êtes responsable média au sein du bureau Europe Creative France. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie, bonne journée.
On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission. Avant ça, je vous propose une pause musicale. On écoute My Song de Labyss Riff.
This is my song, and no one can take it away. It's been so long, but now you're here to stay. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true. This is my song, and no one can make it alive. It's been so long since someone could make me cry. And I wonder if you know what it means to laugh as tears go by. I may not always sing in tune, and sometimes you don't hear me, but you don't have to be near me to know that I'm singing. This is my song, and nothing can make it die. It's been so long, and it's stronger. I know why, and I wonder if you really, really know. As long as I live, I will sing my song for you.
I may not always sing in tune. And sometimes you don't hear me, but you don't have to be near me to know that I'm singing. This is my song, and nothing can make it die. It's been so long, and it's stronger. I know why, and I wonder if you really. Sing my song, that as long as I live, I will sing my song, that as long as I live, I will sing my song for you.
De retour pour cette nouvelle partie d'émission et je vous accompagne toujours depuis le Festival de Cannes pour ce dernier numéro qu'on passe ensemble sur la croisette. Et pour finir, je vous propose une petite surprise. Deux choses. La première, c'est qu'on va faire un petit tour sur la croisette. Nous n'allions pas terminer cette superbe semaine passée ensemble sans rencontrer les Cannois, ceux qui vivent ici toute l'année et qui connaissent Cannes sur le bout des doigts. Et la deuxième, c'est que j'ai décidé de prêter le micro à Radio Alpa à un confrère, Jean Rino. Il connaît les Cannois et le département comme sa poche et il est allé rencontrer les habitants. Figurez-vous que l'événement n'est pas si populaire ici, parce que oui, loin des paillettes et du tapis rouge, cet événement a changé, semble-t-il. N'est-ce pas, Jean Rino ?
Il n'y a plus la simplicité qu'il pouvait y avoir avant. Catherine Deneuve en train de se faire shooter sur la croisette. Belmondo qu'on peut croiser proche du marché de Fortville.
Alors, je vais vous dire franchement, pour moi... Avant, j'ai envie de dire, mais j'avais 17 ans, hein, je vendais à Saint-Trope des glaces sur la plage, hein, avec Brigitte Bardot et compagnie, gnagnan. Je ne dis pas tous les noms, voilà. Mais je trouve que maintenant, c'est devenu trop. Il y a trop de monde. Et là, ça ne va pas. Après, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Alors, ou je ne le voyais pas comme ça, peut-être. Mais non, je pense que là, je suis allée avant-hier, hier. Oh là là! On n'a pas dormi de la nuit et j'habite en haut, hein. Mais j'habite à Cannes. Hein. J'ai vu que ça a changé, ça a changé.
Les gens, ils font pas attention à la ville, rien, c'est catastrophique. C'est depuis 5-6 ans, depuis après le Covid, ça a été comme ça.
Donc vous attendez qu'une chose, que ça se termine?
Oui.
Oui.
Voilà. Ah, oui.
C'était mieux, mais enfin maintenant, il y a des problèmes de sécurité, il y a beaucoup de choses.
C'est ça que je veux savoir. Quand on est cannois, est-ce que c'est une bonne chose quand arrive le festival? Est-ce qu'on en profite?
C'est-à-dire qu'il faut aller à la mairie, il faut se faire inscrire, ça, tout ça. Moi, ça me sort des narines. Hein. J'ai horreur du numérique. Moi, fut un temps, on avait au MIDEM, on allait à la billetterie, on avait des trucs. Je pouvais rentrer, moi, je suis toujours rentrée avec des billets. C'est pas du tout la même chose. Je trouve que c'est minable, là, maintenant. Minable. Ouais.
Donc, vous n'êtes pas privilégié si vous voulez voir quelque chose. Vous me dites c'est derrière les barrières, et encore.
Ah oui, et encore. Ouais. Comme tout le monde.
Voilà, ce sont des témoignages recueillis par notre cher Jean Rino, confrère local à Cannes et pour les Alpes-Maritimes. Après avoir rencontré les Cannois, Jean Rino, il est peut-être temps de nous faire découvrir autre chose que le tapis rouge et le palais du festival, n'est-ce pas? Alors vous avez décidé de nous proposer trois lieux emblématiques de Cannes à découvrir si on vient ici.
Oui, c'est vrai que la commune de Cannes a cette particularité d'être connue principalement pour son palais des festivals, mais heureusement... Cannes, ce n'est pas que ça, c'est aussi plein d'endroits à absolument découvrir, une destination préférée pour les visiteurs de la Côte d'Azur. Et moi, je vais vous la faire découvrir à travers trois endroits incontournables. Et on commence avec le Suquet. Le Suquet, c'est le quartier historique de la ville de Cannes. Et c'est vrai que ce Suquet a une vraie histoire. C'est ici que tout a commencé quand la ville n'était qu'un petit village de pêcheurs. D'ailleurs, ce quartier historique, il est collé au port de Cannes. Et on peut s'y aventurer principalement à travers la rue Ménadier, qui est la première rue. On a vraiment des pavés, une ambiance très moyenâgeuse. Et puis, c'est tout en montée pour accéder tout en haut à un endroit assez fabuleux. C'est le musée des explorations du monde. Ici, on va avoir plusieurs expositions thématiques sur des pays. Et justement, c'est une vraie ouverture au monde. On retrouve aussi l'église Notre-Dame d'Espérance, ainsi que le château médiéval des moines de Lérins avec sa tour carrée. Et cette tour, il faut absolument la voir. Ça, c'est ma première destination. La deuxième, eh bien, elle a un lien tout particulier avec cette tour des moines de Lérins, puisque juste en face de Cannes, sur la baie de Cannes, on peut retrouver deux îles, l'île Saint-Honorat et l'île Sainte-Marguerite. C'est très facile à prendre, vous allez au niveau du port, et il y a des navettes hein, toutes les 30 minutes. Ces îles, elles ont deux histoires assez rigolotes et puis assez historiques. Hein. On a tout d'abord l'île Sainte-Marguerite. L'île Sainte-Marguerite, en fait, elle abrite une légende, la légende du masque de fer. C'est ici qu'aurait été emprisonné eh bien, le fameux masque de fer. C'est ici qu'on y retrouve justement la prison du masque de fer. On a un musée consacré à cette histoire. On a une île assez sauvage, hein, toujours bien protégée. Et donc, c'est un vrai voyage à travers le temps, le fait de se rendre sur cette île Sainte-Marguerite. L'île Saint-Honorat, elle se cache juste derrière. Et elle aussi a une histoire toute particulière, puisque depuis le Moyen-Âge, c'est une vingtaine de moines qui habitent sur cette île et qui l'entretiennent. Des moines qui vivent principalement eh bien, de l'agriculture, de la viticulture. Ils produisent aussi de l'huile d'olive. Et on y retrouve une abbaye où beaucoup viennent faire des sessions de retrait, des retraites entre guillemets. Ça veut dire qu'ils vont s'écarter un petit peu du monde pendant quasiment une semaine pour retrouver les vrais sens et puis retrouver une paix intérieure. Alors cette île, elle est aussi riche puisqu'on a une flore méditerranéenne et puis l'été évidemment c'est prisé pour se baigner parce qu'on est vraiment dans un cadre absolument incontournable. Donc ça, c'est ma deuxième destination. Et puis la troisième destination incontournable, c'est le boulevard de la Croisette. Boulevard de la Croisette qui a aussi bien changé à travers le temps, puisqu'à l'origine, ce n'était qu'un simple sentier côtier où seuls les ânes et les pèlerins osaient s'aventurer. Ça veut dire que c'était un peu un endroit de danger. Aujourd'hui, hein, ce boulevard de la Croisette s'étend sur 3 km avec ses pins, ses fameux palmiers. On a évidemment le sable, les restaurants de plage. Il part du Palais des Festivals jusqu'au Port Canto. Ce sentier de 3 km pour se dépayser.
Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avant de conclure cette émission et cette semaine spéciale au Festival de Cannes. On va s'écouter une dernière pause musicale avec Dua Lipa et Houdini. A tout de suite.
Catch me or I go.
Voilà, c'était notre dernière pause musicale depuis Cannes et la Croisette, parce qu'il va être l'heure de conclure ce dernier numéro et cette très belle semaine passée ensemble. Pour conclure cette émission, je tiens d'abord à remercier mes invités et mes interlocuteurs sur place qui ont pris de leur temps en cette semaine de marathon à Cannes, puisque Cannes, c'est une course pour tout le monde, croyez-moi. Et puis également, merci tout particulièrement à mon confrère, Jean Rino, pour sa connaissance du terrain et son apport cette semaine. Parce que oui, débarquer au Festival de Cannes pour la première fois, c'est un challenge et un exercice particulièrement relevé pour découvrir le terrain en quelques jours, voire en quelques heures finalement. Et puis après avoir remercié les locaux, je vais remercier les Sartois. Merci sincèrement à l'équipe de Radio Alpa, à Romain Linan, réalisateur technique, à Fred Chauveau, le programmateur musical, pour leur investissement et leur travail technique, puisqu'il y en a un à Cannes, mais il y en a aussi qui était au Mans. Et puis merci à Jean-Yves Breteau, le directeur et responsable d'antenne de Radio Alpa, pour sa totale confiance lorsque je lui ai émis l'idée de proposer cette couverture inédite à nos auditeurs et à nos auditrices. C'était un projet ambitieux et surtout nouveau qu'il a décidé de soutenir, dans des moments où ce challenge ne faisait pas forcément l'unanimité de tous. Et puis enfin, je ne pourrais évidemment pas refermer cette émission sans vous remercier, vous, chers auditeurs et auditrices. Fidèles ou curieux, j'ai pu avoir le retour de certains d'entre vous cette semaine et je vous en remercie grandement. Puisqu'évidemment, c'est vous, le centre de notre projet à Radio Alpa, alors je vous remercie de votre écoute. Ce sont évidemment des programmes que vous pouvez tous réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ma part, je vous retrouve au Mans, dans notre bien-aimée région sartoise, ce jeudi à partir de 18h dans CEDACTU, parce que la saison est loin d'être finie, il y a encore beaucoup d'événements et de surprises à venir. Alors je fais mes valises, je quitte la Croisette, le tapis rouge, et je vous dis à très très vite sur notre antenne. Merci encore et à jeudi.